Bonjour à tous. Je propose de prier. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi et nous reconnaissons les besoins de ce monde et nous faisons appel à toi parce que Jésus, ton Fils, notre Sauveur, est appelé le Prince de la Paix. Et nous souhaitons, nous voulons vraiment, nous désirons que ce Prince de la Paix puisse régner sur la terre, qu'il puisse mettre fin aux diverses guerres qui agitent le monde, qui se passent dans le monde. Oui, c'est vrai que ces choses avaient été annoncées, mais nous voulons te prier, Seigneur, que tu empêches les projets des hommes qui sont des projets dévastateurs. Et nous soupirons après le jour où ta justice habitera dans le monde, quand ta volonté sera faite sur terre comme elle est au ciel, et que Jésus puisse régner sur la terre, être connu et reconnu comme Prince de la Paix et comme ton Fils. Et maintenant que nous ouvrons la Bible ensemble, Seigneur, nous te remercions pour la richesse de ta parole et nous te demandons simplement de nous ouvrir les yeux, que nous puissions voir les merveilles de ta loi et pouvoir comprendre quel est ton projet bienveillant pour nous en tant que tes enfants, mais aussi nous mettre en garde contre toute imitation de la foi chrétienne qui ne serait pas véritable. Merci pour la lettre de Jean. Nous te prions que nous puissions être des auditeurs attentifs et obéissants aujourd'hui dans la foi. Amen. Peu de gens connaissent Han van Meegeren, un peintre néerlandais du XXe siècle qui n'était en soi rien de spécial. Il avait du talent, certes, mais peu d'originalité. Et donc ce peintre van Meegeren s'est mis à tromper le monde artistique. Il a pris en quelque sorte sa vengeance sur les experts qui n'avaient pas apprécié son travail en cherchant à les tromper. Il a décidé de peindre à la manière de Vermeer, qui était un grand peintre hollandais du XVIIe siècle. Van Meegeren, à partir des années 1930, a créé des faux tableaux de Vermeer. Et ces faux étaient tellement convaincants qu'ils ont persuadé les experts. Il avait la bonne peinture, il avait la toile et le châssis nécessaires, et il pouvait même leur prêter un air plus vieux à ses tableaux, pour qu'ils aient l'air d'être anciens. Ils étaient tellement convaincants qu'on dit que les experts ne les ont même pas analysés pour voir s'ils étaient vrais ou pas. Et à un moment, on estimait la valeur de l'œuvre de Van Meegeren comme étant 30 millions de dollars. Et on parle du siècle passé, n'est-ce pas? Alors c'est intriguant pour le monde de l'art, mais c'est dangereux dans le domaine de la foi. Il y a la possibilité d'avoir une apparence chrétienne, voyez-vous, un discours chrétien qui peut être très persuasif, qui semble vraisemblant, un vernis chrétien sur notre vie, qui pourtant n'est pas une vraie vie chrétienne. Comment discerner le vrai du faux? Comment discerner le vrai chrétien de quelqu'un qui est chrétien en apparence? C'est une tâche importante. Et pour cela, nous avons un expert qui s'appelle Jean, un disciple de Jésus, un des 12 qui a passé du temps, 3 ans, en compagnie de Jésus, à l'écouter et à le regarder attentivement. Et ensuite, il a écrit cette lettre, la première lettre de Jean, pour l'Église du 1er siècle, pour nous aider. Alors l'extrait que nous allons lire est typique de la lettre de Jean. Si vous avez déjà entendu cette lettre que Jean a écrite aux Églises, il y a des choses évidentes que nous allons lire ce matin. Il y a des phrases choquantes également. Et puis il y a une autre phrase énigmatique. On commence à s'habituer au style, n'est-ce pas, de l'apôtre Jean. C'est pourquoi je veux d'abord lire, avant de lire notre texte, je veux d'abord lire le résumé. Il y a un résumé au chapitre 3, verset 23. Ce verset, je pense, est vraiment le résumé de tout ce que nous allons lire. Vous l'avez sous les yeux, 1 Jean 3, 23. Et voici quel est son commandement, le commandement de Dieu. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il l'a ordonné. Jean expose là, de manière très brève, ce que Dieu veut de nous. Ce serait réducteur de dire que c'est tout ce que Dieu demande de nous, parce qu'on mettrait alors de côté la sainteté ou l'adoration ou le service, d'autres choses bien sûr que la Bible nous demande de faire pour Dieu. Mais parfois, pour être clair, c'est important d'aller directement vers les choses importantes, plutôt qu'être complet, de dire tous les aspects. Alors on voit ici ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Que nous croyons en Jésus, ce sera la deuxième partie de notre message et de notre lecture, et que nous nous aimions les uns les autres. Nous allons commencer par ce point. Vous voyez un peu où on va ? Voilà ce que Dieu demande de nous, et Jean va l'expliquer. On commence à chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11. « En effet, le message qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous rassurons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous avez entendu peut-être l'aspect de la vérité. Verset 18. Aimons avec vérité. Verset 19. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité. Il essaie de voir, c'est quoi un vrai chrétien ? C'est quoi être vraiment dans la foi ? Et puis à la fin, il parle, chapitre 4, verset 6, de l'esprit de la vérité, le vrai esprit, l'esprit de la vérité. Et donc ce texte nous amène à nous poser deux questions, c'est les questions qu'on va regarder attentivement. Comment pouvons-nous discerner ce qui est vrai, le vrai du faux ? Deux questions. Est-ce que notre amour est vrai, comme celui de Jésus ? Est-ce que notre amour est vrai, comme celui de Jésus ? Il rappelle ce que nous avons lu et compris, verset 11, nous devons nous aimer les uns les autres, et nous l'avons déjà dit. Ça veut dire que nous voulons que les autres vivent, c'est ça en fait l'amour, c'est vouloir que les autres aient une vie. On ne veut pas nuire à leur vie, on ne veut pas enlever leur vie, mais qu'ils aient la vie. Et puis il va utiliser un exemple, ou plutôt un contre-exemple, qui est un exemple choc, celui de Caïn, qui était un des premiers individus nommés dans la Genèse. Caïn a tué son frère. Alors on pourrait penser que c'est un fait divers, n'est-ce pas ? Les gens s'entretuent aujourd'hui et il suffit de lire les infos. Mais Jean va en faire un exemple pour un argument plus large. James Hamilton est un théologien baptiste américain. Et par une de ses conférences, il m'a aidé à comprendre à l'histoire de la Bible comme celle de deux lignées. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Alors si vous étiez là la semaine passée, vous allez dire, mais Paul, ce n'est pas James Hamilton qui a inventé ça, c'est l'apôtre Jean, on l'avait entendu la semaine passée. Et en effet, ce n'est pas une invention, mais c'est une trouvaille, je pense, dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a une opposition entre le diable et l'humanité qui a été créée par Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, que le diable va essayer de récupérer une partie de l'humanité pour lui, de l'éloigner de Dieu. Et il va réussir au départ avec les deux, nos deux parents, n'est-ce pas ? Mais ça se voit aussi avec Caïn et Abel. Abel est juste devant Dieu, mais son frère, Caïn, n'arrive pas à maîtriser le péché. Et il finit par tuer le frère innocent. Dieu a cherché tout au long à créer sa propre lignée, ceux qui seront ses enfants, tandis que dans le monde, beaucoup sont encore opposés à lui. Alors ces personnes n'ont pas consciemment choisi le diable, mais leur comportement est celui du diable. C'est ce que le diable veut, s'opposer à Dieu. Et donc ils se sont rangés de leur côté. Et quand Jésus entre en scène, un grand point de tension qui existe entre Jésus et les autres, c'est que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'en face, il leur dit à certains, « Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui était menteur et meurtrier. » Regardez Jean chapitre 8, verset 44, si vous ne me croyez pas. Alors pour revenir à Caïn ici, on reconnaît qu'il y avait une opposition dès le départ entre les justes et les injustes, et que le monde s'oppose aux enfants de Dieu. Il est question, verset 13, de nous détester. Alors nous suivons tous l'actualité, n'est-ce pas ? Et nous pourrions être en train de penser, mais qui sont les enfants de Dieu ? Qui est du bon côté dans ce conflit armé qui fait tant de victimes aujourd'hui ? Et je voudrais dire que ce texte ne parle pas de cela. Il est possible que des nations du monde s'affrontent, ou qu'un peuple essaye d'éliminer un autre peuple. Il y a des motivations injustes pour des conflits. Mais ici, il n'est pas question de pays ou de nationalité. Il est question plutôt d'opposition du monde vis-à-vis des chrétiens. Et nous, si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas imiter Caïn. C'est ça le premier commandement dans ces versets, après « Aimez-vous les uns les autres ». N'imitons pas Caïn, verset 12. Nous ne devons pas avoir de la haine contre l'humanité. Nous ne devons pas réagir avec violence lorsque le monde nous rejettera. Verset 14, nous aimons les frères et sœurs. Nous sommes appelés à aimer également ceux qui ne sont pas nos frères et sœurs, mais d'abord à aimer les frères. Je pense que ça vaudrait la peine que lorsque nous parlons à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus et qui s'intéressent à la foi chrétienne, que nous osons leur dire que ceci est important. On a tellement mis l'accent, je pense, sur le choix individuel de suivre Jésus que nous risquons, en tant que mouvement évangélique, de faire que les gens ont juste leur relation avec le Seigneur et pensent qu'ils peuvent exister comme ça tout seuls. Or, dès le début, le projet de Dieu a été que lorsqu'on croit en Christ, on s'ajoute à une famille chrétienne. Dieu est notre Père et nous avons des frères et sœurs en Christ. Et nous sommes censés aimer les autres. Et donc, en fait, devenir chrétien, c'est se joindre à l'Église. C'est s'ajouter à une communauté locale où nous pouvons aimer les uns les autres. Et je pense que ça vaut la peine de dire ça. Ce n'est pas par votre amour que vous serez sauvés. C'est par votre foi en Christ que vous serez sauvés. Mais votre foi en Christ va vous ajouter à une famille que vous devrez aimer par la suite. Si tu veux être chrétien, non seulement il faut croire en Christ, mais il faut être prêt à aimer les autres chrétiens, à les considérer comme frères et sœurs. Et qui peut nous aider alors à comprendre l'amour véritable? Eh bien, verset 16, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Alors, encore une fois, si vous étiez là la semaine passée et vous avez une bonne mémoire, Vous avez le souvenir que Jean n'utilise pas toujours le nom de Christ ou de Jésus. Et ici, c'est le cas à nouveau. Il dit « Celui-là pardon, celui-là a donné sa vie pour nous. » Mais qui est celui-là qui meurt de manière délibérée et différente des autres ? Jésus. Il n'était pas comme Abel, une victime de violence. Jésus n'est pas mort à la croix parce que voilà, il y avait tant de gens qui étaient contre lui. Il est mort à la croix parce qu'il a donné sa vie. Et il l'a fait pour nous. C'est tellement important de comprendre cela. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus important à comprendre. Pourquoi Jésus est-il mort? Et comment la mort de Jésus exprime-t-elle de l'amour? Parce qu'un homme qui est dans un bateau et qui se jette dans la mer, ce n'est pas de l'amour. Juste pour se noyer comme ça, bêtement. Mais un plongeur qui est là et donne sa bonbonne d'oxygène à sa fiancée pour lui sauver la vie parce qu'elle n'a pas de bonbonne d'oxygène et elle va se noyer. Il est en train de sauver sa fiancée. Il est en train d'exprimer de l'amour, vous voyez? Parce qu'il donne sa vie pour sauver la sienne. Et c'est ainsi qu'on comprend l'amour de Christ à la croix. Il est en train de donner sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre. Autrement, nous serions perdus, jugés, condamnés et morts éternellement. Alors aujourd'hui, un peu partout en Belgique, d'un dimanche spécial, il y a un effort pour faire connaître Jésus-Christ à nos concitoyens. Cela s'appelle le projet Espoir. Alors ce que nous avons à annoncer avec les autres églises qui annoncent l'Évangile, c'est la personne de Jésus, oui, mais aussi son œuvre. Il est venu mourir à la croix. C'est la clé pour comprendre à la fois la gravité de notre situation sans lui, mais aussi la grandeur de son amour pour nous. Alors je vous encourage, si vous ne connaissez pas encore cet amour de manière personnelle, que vous puissiez chercher à connaître Christ, à comprendre qui il était et à savoir ce qu'il a fait pour nous donner la vie éternelle. Mais ici, on revient à notre sujet. Nous, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, ben, nous devons comprendre que si nous avons appris l'amour de Christ en voyant son amour, verset 16, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et il va montrer comment nous n'allons pas sauver les gens, nous n'allons pas aller à la croix. Ce n'est pas ce type d'amour. Mais que nous devons prendre ce qui est à nous pour le donner aux autres. Et juste après, il va donner des exemples très pratiques. Je vais relire le verset 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Et puis verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Quand j'ai déménagé, j'ai eu beaucoup d'aide. Frères et sœurs à l'église nous ont aidés à déménager. Il fallait une aide pratique, concrète. Il faut démonter les meubles, il faut bouger tout dans la maison, etc., etc. Ça ne nous avance pas beaucoup d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, tu déménages ? Eh bien, je vais t'écrire un poème. » C'est gentil. Ah, ben, toi qui déménages, je te souhaite bon voyage pour tout ton ménage. Voilà. À quoi ça nous sert, ça ? Ce n'est pas des paroles qu'il faut, n'est-ce pas ? Ce sont des gestes. C'est quelque chose de concret. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous occuper, les enfants de quelqu'un ? Un coup de main avec le ménage, conduire quelqu'un quelque part. Alors je remarque, pardon, on est parfois frileux pour recevoir de l'aide. Parfois il y a des gens qui voudraient aider, mais on ne leur demande pas. Ou peut-être qu'on n'ose pas demander. Alors peut-être que vous ne savez pas gérer le jardin, ou vous n'avez pas la force pour aller faire des courses, et que vous manque du temps pour préparer quelque chose, ben, laissez-vous aider. Faites appel aux frères et sœurs. Et soyons de notre côté prêts à agir lorsqu'il y a une demande, n'est-ce pas? Je sais que nous habitons loin les uns des autres, c'est un inconvénient. Nous sommes parfois de l'autre côté de la ville, où nous sommes en Flandre, mais néanmoins, il est possible de nous entraider. Nous avons des moyens de transport et nous avons d'autres façons que nous pouvons aider les autres. La vérité, voyez-vous, n'est pas une chose intellectuelle. Ce n'est pas simplement qu'on peut comprendre la vérité de l'amour, mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre. Et c'est un vrai amour qui va alors nous rassurer devant Dieu. Et à la fin de cette première section, il y a une phrase énigmatique. Regardez le verset 20. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il pense à ce moment où notre cœur peut nous rappeler le mal que nous avons fait, les manquements de notre amour, des bonnes œuvres que nous n'avons pas faites, ou peut-être que nous avons fait de bonnes œuvres, mais avec de mauvaises motivations. Ça existe aussi, n'est-ce pas ? Et notre cœur peut alors être notre procureur, en disant « Ah, mais tu as vu ça hein? » et on est condamné par notre cœur. Et nous devons nous souvenir que le juge ultime, ce n'est pas notre cœur, mais le Seigneur, notre Dieu. Comme dit Paul, je ne me juge pas moi-même. Et juste après qu'il a écrit ça, il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4. Et Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il sait quels sont nos efforts que nous fournissons pour lui obéir, ou quand nous ne faisons pas d'efforts. Mais il sait quels sont les obstacles que nous devons surmonter, quelles sont les faiblesses que nous arrivons néanmoins à dépasser. Un exemple tout simple. Pour quelqu'un, venir à l'église peut être facile. On se lève, et puis il y a la voiture de papa, et on monte dans la voiture de papa, et puis voilà, on arrive à l'église. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un énorme effort d'être là le dimanche matin. Un effort physique de discipline, d'organisation, d'effort, de transport. Alors Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. C'est tellement rassurant de pouvoir dire, en fait, il sait même des choses que nous faisons de bien, auxquelles nous ne pensons pas. Mais l'autre phrase énigmatique suppose que notre cœur ne nous condamne pas. Juste après, verset 21, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quand nous n'avons pas quelque chose à nous reprocher, quand nous savons que nous avons obéi à Dieu, et j'espère que nous avons fait cette expérience, eh bien, nous pouvons dire oui. Je peux prier avec confiance devant Dieu. Le verset 22 semble dire que ceux qui obéissent reçoivent ce qu'ils demandent du Seigneur. Et c'est tout à fait ça. La prière du juste agit avec une grande force. Et écrit Jacques dans sa lettre. Voyez-vous, prier, quand nous sommes obéissants, quand nous sommes zélés pour le Seigneur, c'est autre chose que prier quand nous sommes dans le compromis avec le péché. Forcément, si nous sommes en train de vivre une vie qui est compromise, Dieu ne va pas exaucer ce que nous demandons. Mais lorsque nous cherchons vraiment à faire la volonté de Dieu, il y a une autre qualité de prière et Dieu répond à ces prières-là, à ces moments-là. Et c'est aussi à ce moment-là que nous allons prier des choses en conformité avec la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Alors je reconnais que tout cela n'est pas simple, mais ici on voit deux vérités. Le chrétien qui reçoit la grâce de Dieu, mon cœur me condamne, me rappelle mes péchés, mais je reçois la grâce de Dieu, Dieu connaît tout. Et aussi le chrétien qui est agréable à Dieu, verset 22, je suis agréable à Dieu et donc je prie avec plus d'assurance parce que je sais que je viens pardonné par Christ certainement, mais aussi obéissant à Christ dans son royaume. La deuxième grande question que ce texte nous pose, c'est croyons-nous l'esprit de vérité concernant Jésus ? Croyons-nous l'esprit de vérité concernant Jésus ? Jean va parler maintenant de l'esprit et des esprits, mais nous devons garder en tête qu'il s'agit avant tout de ce que nous croyons. Que croyons-nous ? Croyons-nous en Jésus-Christ ? Alors verset 23, il est vraiment nommé, enfin, il est nommé, son fils Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Fils, ça parle de la divinité de celui qui est le fils de Dieu. Il a toujours été Dieu, dès avant le commencement du monde, il était Dieu, éternel. Jésus, ça parle de son incarnation, sa personnalité humaine. Il a été créé, il est né de Marie. Il était sur la terre, Jésus. Il va à la croix, il nous sauve de nos péchés. Et Christ, c'est son titre qui signifie qu'il est le roi messianique, le maître de toutes choses. Ce n'est pas rien de dire qu'il est le Fils de Dieu, Jésus, le Christ. Et puis, verset 2, « Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. » Car il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient l'esprit. « Ah oui, oui, moi j'ai l'esprit. » Mais qui niaient l'incarnation. Alors je sais qu'aujourd'hui, peu de gens nient que Jésus avait une existence humaine. C'est pas vraiment courant. Les gens disent plutôt, bah oui, il était homme, mais il n'était pas Dieu. Mais à l'époque, il y avait des gens qui disaient, en fait, Jésus, c'était plutôt une apparition. Il était vraiment divin, et voilà, mais il n'avait pas une réalité humaine. Il était en train de nier donc, cet aspect de l'existence de Jésus. Et c'est pour ça que les gens insistent, mais non, on l'a vu, on l'a touché, il était là. Alors, il faut accepter Jésus tel qu'il est. On ne peut pas dire, moi j'aimerais bien croire une partie de ce qu'on sait sur Jésus, mais pas l'autre partie. On ne peut pas nier la divinité, on ne peut pas nier l'humanité. Jésus est 100% Dieu et homme. Alors pendant quelques instants, j'aimerais juste prendre un peu de hauteur par rapport au livre et voir un peu un survol, vous offrir un survol du livre, parce que jusqu'ici on l'a vu un peu en tranches, mais peut-être ça nous aide d'avoir une image plus globale du livre. En fait, il y a un schéma cyclique du livre, d'accord ? Donc juste rapidement, je vais vous dire les trois tests que Jean propose à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'on entend que quelqu'un pense qu'il est chrétien. Quels sont les trois tests ? Le premier est le test de la justice, chapitre 1, verset 5 et suivant. Est-ce que nous marchons dans la lumière ? Le deuxième test est celui de l'amour, chapitre 2, verset 7 et suivant. Est-ce que vous aimez votre frère en Christ ? N'aimez pas le monde, aimez les chrétiens. Le troisième test est celui de la foi. À chapitre 2, verset 18 et suivant, est-ce que vous reconnaissez que Jésus est le Messie ? Donc avec ces trois tests, Jean va vraiment interroger les chrétiens pour avoir plus de discernement. Et puis il refait un tour. Le test de la justice revient au chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. C'est le test de la justice. Et chapitre 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. » C'est le test de la justice. Ensuite, le test de l'amour. Et ici, on le voit au verset 11, « Aimez-vous les uns les autres. » Et verset 14, « Nous devons nous aimer, nous aimons les frères et sœurs. » Et puis ici, troisièmement, on revient au test de la foi. Chapitre 3, verset 23, « Nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Et à chaque tour, il va ajouter quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a une répétition des trois tests, mais à chaque fois, il va ajouter quelque chose, un peu plus de profondeur, un peu plus de couleur. Alors nous sommes dans le test de la foi, et particulièrement du test de ce que nous croyons par rapport à Jésus. Mais on ne peut pas dire que seulement parce que quelqu'un a de l'amour, c'est un chrétien. Vous avez compris cela. Quand il insiste sur le fait d'aimer les frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont aimables, mais qui ne sont pas des gens chrétiens. Il faut qu'ils croient, qu'ils aient la foi en Jésus-Christ, personnellement. Donc ça doit aller ensemble. Alors comment tester les esprits ? Et de quoi est-ce qu'il parle, en fait, là, avec l'idée de tester les esprits ? J'aimerais que vous puissiez bannir de votre esprit, de votre pensée, l'idée un peu d'un exorcisme, où parfois quelqu'un a une possession d'un démon, il est influencé par un démon, et on va essayer de lui dire, mais dis quelque chose par rapport à Jésus, dis Jésus est le Messie. Et puis on voit un peu comment ce démon réagit. Ce n'est pas du tout ça dont il est question ici. Il parle plutôt de notre être intérieur qui peut être, pas en possédé par cet esprit démoniaque, mais avoir un discours en fait qui est anti-Christ, contre Christ. C'est au niveau donc individuel et personnel que cela se passe. Il y avait d'ailleurs des soi-disant prophètes, verset 1, qui parlaient de la part de cet esprit, ou sous influence de cet esprit. Et ça nous amène à être plus attentifs, à ne pas nous fier à n'importe qui. Un pasteur, un bishop, un enseignant biblique, un chanteur, un youtubeur. On dit « Ah oui, mais c'est chrétien, hein, oui, il parle de Jésus. » Mais attention, il faut qu'il dise la vérité sur Jésus. Et la Bible nous donne beaucoup de détails sur qui est réellement Jésus. Pas seulement son nom, mais sa personne. Qui est-il vraiment ? Et donc, ignorer Jésus, le chef de l'Église, le seul sauveur, ou présenter une vision alternative de Jésus, ça revient à nier qui il est réellement. Alors voici une bonne façon de faire le tri. Vous allez dans une église où vous entendez un message, un discours de quelqu'un qui dit qu'il est rempli de l'esprit, ou qu'il a une approche spirituelle, toujours l'esprit qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Alors on dit, bon, ok, écoutez, qu'est-ce que cette personne dit concernant Christ? Et est-ce que ce qu'elle dit est conforme à ce que dit la Bible? Est-ce que vous ressortez de son église ou de ce message en ayant envie d'adorer Christ plus profondément, en voulant être obéissant au Christ de la Bible, ou en disant « Ah, mais maintenant j'ai compris les choses tout à fait différemment, donc je peux faire ce que je veux. » Vous voyez? Est-ce que vous avez été attiré ailleurs, ou est-ce que vous avez été ramené à Christ? Il y a des églises qui parlent beaucoup de l'esprit. Et ce n'est pas ça qui manque. Il y a des églises qui parlent beaucoup de leur pasteur. Mais le vrai esprit est celui qui attire notre cœur vers le vrai pasteur, qui est Jésus-Christ. Alors peut-être que nous serons en minorité et que ça va nous gêner. Ils ont fait des expériences parfois avec des gens pour voir un peu comment les gens réagissaient quand ils étaient en minorité. Ils ont demandé à un groupe, ils étaient peut-être 10, je ne sais plus les détails, d'identifier quelle ligne, ils avaient deux lignes, quelle ligne est la plus longue. Il y avait une qui était clairement plus longue que l'autre. Mais ils avaient demandé à 8 de ces personnes à l'avance de désigner la mauvaise ligne. Alors ils étaient ensemble, en groupe, ils disent voilà, premier exercice, voilà, quelle ligne est la plus longue? Et alors il y a 8 personnes qui lèvent la main pour la mauvaise ligne, qui est la plus courte. Et on a vu à chaque fois les gens en minorité qui ne s'en sentent pas sûrs et disaient mais c'est peut-être pas ça, et qui ont finalement levé la main pour l'autre ligne. Tellement l'influence des autres a fait pression sur eux. C'est difficile, n'est-ce pas, d'être en minorité. Mais regardez la fin du verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah oui, nous sommes peu nombreux face au monde. Ah oui, le monde parfois est imposant avec sa spiritualité, avec son approche à la vie. Mais celui qui est en nous, l'Esprit de Dieu, le vrai Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tant pis si on est peu nombreux. Si nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la vérité. Ayons confiance. Eux auront leur auditoire. Regardez verset 5. Ils sont du monde, ils parlent d'après le monde. Le monde les écoute. Mais nous, nous avons une autre boussole, un autre guide. Nous ne nous décourageons pas parce qu'il y a ceux qui parlent de Dieu, verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. Et quand Jean dit ça, je ne pense pas qu'il est en train de parler de nous, dans l'église locale, mais il est en train de parler de nous, les apôtres. Jean et les apôtres ont parlé de la part de Dieu. Et nous avons leur témoignage dans la Bible. Et donc nous pouvons suivre cela et connaître le vrai Dieu. Savoir comment il est et ce qu'il veut de nous. Donc il y aura du vrai du faux. Mais nous pouvons faire la part des choses. Nous pouvons identifier l'esprit de la vérité par rapport à l'esprit de l'erreur. Alors je vous encourage simplement avec des choses pratiques pour terminer. Quand vous voulez discerner, quand vous voulez grandir en discernement, quelques astuces s'il vous plaît. Je vous encourage à avoir votre Bible avec vous. Quand vous allez à l'église, prenez votre Bible, non seulement pour montrer aux autres que vous n'êtes pas en train d'aller faire vos courses ou d'aller faire du sport, mais vous allez à l'église, mais aussi pour comparer ce qui est dit avec la Bible. Ne me croyez pas juste parce que je suis pasteur et que je parle. Mais croyez-le si c'est dans la Bible. Voyez ce qui est dit, si c'est vraiment conforme à la Bible ou pas. Deuxièmement, ne vous fiez pas à l'ambiance dans une église. Il peut y avoir une ambiance très animée dans une église ou une ambiance très calme dans une église. Mais ce n'est pas l'ambiance qui est la garantie du sérieux avec laquelle on prend la Bible. Il y a des églises qui sont très animées, mais qui écoutent très attentivement la Bible pour être obéissants. Et il y a des églises qui sont très très calmes, mais où tout le monde dort et il n'y a personne qui écoute la Bible. Nous voulons prendre cette parole au sérieux et pas seulement regarder autour de nous quelle est l'ambiance dans une réunion. Voyez quelle est l'écoute de la parole. Et puis, troisième astuce, Écoutez si le discours est pareil à celui du monde. Vous voyez un message qui circule, quelqu'un vous envoie un mot d'encouragement, vous entendez ce que disent une église, comparez, est-ce que c'est le même discours qu'on pourrait entendre à la radio ou dans les journaux non chrétiens? Ben, c'est pas alors quelque chose de vraiment chrétien qu'on est en train d'entendre là, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes valeurs que le monde, on parle des mêmes choses avec la même perspective que le monde, ben, ça c'est le monde qui parle. Mais la Bible, c'est différent. Ce qu'on entend dans l'Église doit être différent. On parle de Christ, on parle de la vérité, on parle d'une perspective biblique qui ne se trouve nulle part ailleurs, parce que c'est celle de Dieu. Alors discerner le vrai du faux. Bonne nouvelle, c'est plus facile de discerner le vrai christianisme du faux christianisme qu'un vrai tableau d'un faux tableau. Heureusement, on recherche à avoir un amour vrai, un amour authentique pour les chrétiens, l'amour de Jésus qui doit nous animer. Et on recherche à avoir la foi en la vérité sur Jésus, qui est portée par l'Esprit, mais qui est sincère dans la vérité biblique. Alors si nous avons cela, on sera capable de discerner. J'ai en face de moi un frère, une sœur, parce que nous croyons les mêmes choses, nous vivons les mêmes choses. Nous sommes dans le vrai. Prions. Oui, notre Père, nous voulons grandir dans notre connaissance de Jésus, certainement, par l'esprit de la vérité, mais aussi dans notre amour fraternel. Ces défis sont simples à comprendre, mais ils ne sont pas toujours simples à mettre en opération. Et donc, Seigneur, viens à notre aide, donne-nous plus de connaissances de Christ, mais aussi plus d'amour les uns pour les autres.